Bonsoir. Bienvenue à La Voix de la librairie, votre émission littéraire mensuelle diffusée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste, située au 565 rue Saint-Jean à Québec. Mon nom est Catherine Doré. Ce mois-ci, dans le cadre de notre série « La littérature pour comprendre le monde », nous allons nous attarder à cette période terrible et essentielle dans l'histoire de l'Occident et qui est la période de la Deuxième Grande Guerre mondiale. En littérature, son impact a été foudroyant. On ne pouvait plus rien dire de la même manière, on ne pouvait plus penser de la même manière, on ne savait pas comment exprimer l'inconcevable. Durant la seconde moitié du 20e siècle, il s'est écrit beaucoup de livres sur ce sujet, romans, essais, témoignages. Avec mes collaborateurs, nous avons sélectionné quelques textes qui nous paraissaient essentiels pour saisir ce que la littérature a livré sur ce sujet. Gabriel va d'abord nous parler de la montée du national-socialisme à travers le roman « Inconnu à cette adresse » de Cressman Taylor, dont David et Amélie nous feront la lecture en fin d'émission. Ensuite, nous ferons une incursion dans le ghetto de Varsovie avec Mylène et une œuvre encore peu connue qui s'intitule « Le chant du peuple juif assassiné ». Enfin, en compagnie de David, nous vous présenterons une revue de la littérature des camps. Nous aurons aussi, comme à l'habitude, des entrevues avec des artistes dans le cadre des événements du mois. Et donc, ce mois-ci, à la librairie, il y a l'exposition des œuvres de Guylaine Proulx, exposition intitulée « À la sortie du cadre » et qu'elle vous présentera elle-même tout à l'heure. Le vendredi 9 mars, il y aura un récital de poésie garage intitulé « La castration du pape ». Edmé Étienne nous lira quelques-uns de ses poèmes et nous présentera cette soirée. Il y aura aussi, le vendredi 30 mars, un spectacle performance qui s'appelle « L'exil », spectacle de Wamed Ben Younes, avec qui je vais m'entretenir tout de suite après cette pause musicale. Alors, nous allons écouter « À Vava et Nova » de Idir Kabil.
Thank you.
d'entendre la chanson « Avava Inouva » de Idir Kabil, une chanson berbère, qui a été choisie par Ouamed Ben Younes. Bonsoir, Ouamed.
Bonsoir.
Tu es ici ce soir pour nous présenter un spectacle que tu vas donner le vendredi 13 mars, un spectacle qui s'appelle « L'exil ».
Oui.
Et pourquoi « L'exil »
C'est parce que c'est un récit poétique un peu qui présente un personnage qui quitte son pays, donc qui traverse plusieurs pays, donc qui arrive au Québec. Donc je voulais partir un peu pour expliquer ici c'est là-bas, là-bas c'est ailleurs, ailleurs c'est ici. Donc en fait il n'y a pas de différence où qu'on soit. Parce que c'est sûr que quand on part quelque part, ben, c'est très dur d'être accepté par tout le monde. Oui. Et puis c'est très dur, malgré toute l'intégration totale, il y a toujours ce côté un peu de l'exil qui reste. Donc c'est pour ça un peu que j'essaye de présenter un peu l'exil comme au fait quelqu'un, comme un voyage.
Toi, excuse-moi, toi, tu vis à Québec depuis...
Moi, je vis à Québec depuis plus de 20 ans.
Donc, excuse-moi, je m'étouffais.
Bois de l'eau.
C'est ce que je vais faire. Et tu me disais que c'était plus une performance. Dans quel sens?
Ben, c'est une performance parce que, bon, c'est... j'avais vécu un peu quelque chose... Ça fait 6 ans, mais je le vais à tous les jours. C'est un peu moi j'ai jamais été victime de rejet ou de racisme dans la rue ou au Québec. C'est rare, mais c'est drôle parce que quand je me suis séparé, donc j'étais avec une Québécoise pendant quand même plus de 10 ans, et c'est drôle qu'en arrivant au tribunal, au fait, ce qui ressortait, même si j'étais citoyen canadien, c'était mes origines. Et ça m'avait un peu révolté que les juges, au fait, ne disent rien par rapport à ça, ni à l'avocate, ni à mon ex, de parler de mes origines. Puis je me suis dit, si quelqu'un est raciste dans la rue, les juges vont le condamner, mais si on est raciste dans un tribunal, c'est correct.
C'est un problème, là.
C'est un problème. Donc, c'est ça qui m'a amené un petit peu. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour expliquer ça? Donc, au fait, c'est ça. C'est une performance dans le sens où ça a été créé en 13 heures. C'est un récit poétique de 50 pages qui a été créé en 13 heures et suivi de 4 vidéos qui ont été faites aussi sans préparation, spontanément.
Ah, ouais.
Donc c'est ça qui m'a amené un peu à faire au fait de le sortir d'abord de bois et puis d'essayer de le présenter à des gens.
Oui, parce que toi tu es conteur, moi j'étais souvent vu comme conteur à Québec dans différentes salles de spectacle.
Oui, je suis conteur aussi, oui. Je suis conteur autant pour les adultes, pour enfants. Je suis auteur aussi. Donc, je fais plein de choses en dehors du travail, bien sûr.
D'accord. Alors donc, je vous rappelle à tout le monde que c'est le 30 mars, le spectacle « L'exil » par Ouamed Ben Younes. Merci beaucoup, Ouamed. On va faire une pause musicale et on va revenir avec Guylaine Pro. Merci.
Merci.
Excuse-moi, j'étais
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois nous sommes capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leur petite chanson, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime la petite chanson. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Alors, c'était « Les gens qui doutent » de Joran. Excusez-moi pour tout à l'heure, j'étais complètement étouffée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis en compagnie de Guylaine Proulx, qui est une artiste peintre dont les œuvres sont exposées en ce moment à la librairie Saint-Jean-Baptiste, et ce, jusqu'à la fin du mois d'avril. Son exposition s'appelle « À la sortie du cadre ». Bonsoir, Guylaine.
Bonsoir, Catherine.
Pourquoi « À la sortie du cadre
» C'est une bonne question. C'est plus un parcours à la sortie du cadre, donc un parcours personnel que j'ai établi avec les années.
Tu fais, on dit, de l'art abstrait. Les gens, malheureusement, ne peuvent pas voir à la radio tes œuvres, et qui sont très, très belles en passant, qui sont vraiment comme... des taches de couleurs, c'est difficile à exprimer. Je pense que je vais plutôt te laisser toi-même en parler.
Oui, il y a beaucoup de couleurs, effectivement. On dit de moi plus un style expressionniste abstrait, même si on ne veut pas rentrer nécessairement dans des catégories. C'est l'acrylique. Okay. Moi, les couleurs, c'est qu'est-ce qui me fait vivre au départ. Les couleurs, c'est vivifiant. Des tubes de couleurs, j'en mangerai. Donc, c'est un choix de menu bien intéressant pour moi. À la sortie du cadre, c'est aussi toute une expression d'un parcours de vie. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années auprès des jeunes de la rue. Okay. Donc, en côtoyant ces jeunes-là, j'ai côtoyé aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'avenues artistiques assez développées, et c'était mon laboratoire pendant plusieurs années. Donc, à travers les arts, j'ai toujours cru que les arts étaient libérateurs, les arts donnaient une voix, les arts permettaient de s'exprimer, que ce soit au niveau des films, des documentaires, de l'écriture, de la poésie ou de la peinture. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné des jeunes à travers des différents médiums aussi de création. Ce qui m'a amené par la suite, moi-même, à appliquer ma même thérapie, si je pourrais dire. C'est après avoir vécu 10 ans dans un milieu quand même assez dur. J'aime dire fragilité et résistance à la fois. Oui. Moi, j'en avais besoin aussi, donc j'ai appliqué ma propre médecine à moi-même. Donc, à la sortie du cadre, c'est peut-être juste la ligne entre la marge et la société qu'on connaît. Donc, c'est ma vision des choses. Donc, c'est mes émotions. On retrouve des aspects figuratifs dans mon art, mais au départ, c'est ça part de mes tripes. Fait que il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais
oui, ben moi j'aime ça beaucoup. Moi, ça me parle beaucoup, mais ça, évidemment, l'art, c'est personnel à chacun.
Oui, c'est ça.
Et puis, est-ce que c'est ta première exposition?
Non. Mais écoutez, ça m'a pris au moins 2 ans en atelier fermé avant de sortir quelque chose parce que, question de confiance personnelle, j'ai eu la chance d'être... Je suis encore en atelier avec Mme Jocelyne Bernabé, qui est une peintre plus connue que moi, qui était très engagée dans le mouvement des femmes. Elle a fait la robe du millénaire et plein de choses. Et elle me fait une petite place dans son atelier. Donc, pendant 2 ans, j'ai peint à temps plein. Par la suite, ben, j'ai enfin sorti ma première exposition. Okay. Donc, elle s'appelait « Nue de l'intérieur », qui était aussi très privée, très, très... C'était de l'émotion brute. Donc, les gens, maintenant, peuvent s'approprier des toiles au-delà des thématiques que moi, j'ai abordées. Mm-hmm. Ce qui est intéressant dans l'art abstrait, ce que je trouve aussi, c'est que... ben, quand tu achètes une toile puis qu'il y a un cuisinier, ben 2 ans plus tard, ton cuisinier va être encore là. Dans l'art abstrait, souvent, ben, ce qui est le fun, c'est qu'avec le temps, un peu comme un livre qu'on lit à 15 ans, si on le lit 15 ans plus tard, ben on a une autre lecture. C'est un peu la même chose pour l'art abstrait. Un peu la même chose aussi aux questions des lumières. Une luminosité, pas lumineuse, lumineuse, amène des choses différentes. Les gens ont des lectures de mes œuvres très particulières, voient des choses que moi, j'avais pas vues. Alors, c'est une belle aventure.
Bien, merci beaucoup, Guylaine. J'invite tous les gens à venir faire un tour à la librairie d'ici la fin d'avril pour voir ça. Ça vaut vraiment le détour.
Je te remercie, Catherine.
On va faire une petite pause musicale. On vous revient avec la série « La littérature pour comprendre le monde ». Thank you. Vous venez d'entendre Pedal Point Blues, une musique de Charles Mingus. Et nous voilà donc rendus à notre premier volet de la série La littérature pour comprendre le monde. Et nous parlons aujourd'hui donc de la période de la Deuxième Guerre mondiale. La première entrevue est avec Gabriel. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir Catherine.
Tu vas nous parler donc d'un roman qui s'appelle Inconnu à cette adresse, qui est un roman épistolaire de Catherine Chrisman Taylor. Et qui a été publié pour la première fois donc en 1938. C'est donc avant la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement.
Mais c'est un petit peu ce qui l'a préparé.
Oui, ben.
Oui, il n'y a pas de problème. Ça relate la correspondance entre un marchand d'art juif qui vivait à San Francisco et son associé et ami, lui, qui est resté en Allemagne.
En fait, ça la prépare, mais. Plus que la préparer, on sent vraiment le chez Sarah Chrisman Taylor une manière de si on veut de saisir la rhétorique nazie ou en tout cas les bribes qui parviennent jusqu'en Amérique.
Oui.
Et par rapport justement au néopaganisme ou avec une survalorisation du mouvement, de l'action, de la force. C'est vraiment son mérite d'avoir réussi à saisir toute cette rhétorique-là, qui est quand même assez large, dans un roman très court, ou encore on dit un roman, plusieurs disent que c'est une grosse nouvelle, plutôt
oui.
qu'un petit roman.
Oui. Mais c'est un échange de lettres, en fait, c'est un roman
épistolaire. Oui, c'est ça,
donc...
c'est 56 pages.
Oui.
56 pages qui s'étalent sur 20 lettres, entre, justement, comme tu le dis, les deux amis. Donc, s'étale du 12 novembre 1932 mm-hmm. jusqu'au 3 mai 1934,
mm-hmm.
ce qui est quand même très peu pour parler justement d'un flot d'événements qui vont secouer l'Allemagne, notamment bon, la montée du nazisme, comme on le dit, qui se passe justement le 6 novembre, un peu avant la première mm-hmm. lettre, où justement le parti nazi a 33% des voix en Allemagne, mais bon. Et là, ça évolue. Jusqu'à ce que Martin, on voit une radicalisation dans son discours,
Martin, c'est celui qui est allemand.
Oui, exactement. C'est celui-là qui est allemand. Donc, Max est resté à San Francisco gérer les affaires, leurs affaires qui prospèrent. Et lui est retourné dans sa famille, dans la famille de sa femme, en fait, pour justement avoir une position dans le régime nazi.
OK.
Et bon, on voit justement au fil des lettres sa pensée se radicaliser et de plus en plus adopter la rhétorique ambiante comme manière d'imitation, si on veut, là, où il va même finir par stigmatiser son ami. Mais justement, la forme épistolaire est quand même intéressante pour le roman, pour ce roman-là de Cressman Taylor, puisque ça lui permet de plonger entièrement dans ces deux personnages. Où il y a un désir d'objectivité, en tout cas, ou plutôt de pas stigmatiser justement une des deux approches, où on va autant du côté américain que du côté allemand, et on creuse cette pensée-là. Et sans vouloir dévoiler le punch, il y a quand même... On peut pas... Comment je pourrais dire ça? On peut pas accuser... Il y a quand même des événements qui font de Max l'égal de Martin, même dans son radicalisme.
Ils sont un peu victimes tous les deux de ce qui se passe au niveau politique, parce que personne ne fait de choix là-dedans.
Non, c'est ça, on subit un peu les courants extérieurs, les courants politiques extérieurs, et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on les subit parce qu'on n'a pas de contexte historique clair. Il faut se référer aux dates qui sont au début de chaque lettre. Puis le lecteur s'en sert avec la connaissance qu'il y a de la Deuxième Guerre mondiale et de, bon, pas de la Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt de la montée, justement, des événements qui se passent autour du roman.
C'est formidable que ça ait été écrit in situ, finalement, au moment où c'était en train de se faire. Donc, publié en 1938, c'est étonnant de comment cette femme-là a réussi à saisir ce qui était en train de se passer.
Oui, ben oui.
Alors qu'elle, c'est une Américaine, en plus?
C'est une Américaine, mais d'origine allemande.
Okay.
Probablement qu'elle avait des contacts. La trajectoire de l'auteur est un petit peu floue. On a des sources qui sont pas très précises, à part peut-être Wikipédia. Bon, c'est Wikipédia nous en dit beaucoup, mais on sait la réputation. Mais non, comme je dis, c'est pas très précis. On sait qu'il y a eu un échange de lettres entre d'autres personnes. C'est basé sur des vraies lettres où il y avait vraiment une répression allemande qui se faisait sentir, ou en tout cas une censure sur la poste. Et à partir de là, cette femme-là a construit son roman. Bon, l'éditeur l'a présenté comme une femme au foyer qui... comme une femme au foyer, que son roman était moins de sa faute que l'enthousiasme que son mari y avait pris à l'écrire avec elle. Donc, c'est parfait, non?
Mais de quoi s'est-elle inspirée pour réussir à cerner cette situation-là elle-même? Est-ce qu'elle avait de la famille en Allemagne? Où est-ce qu'elle a pris ses idées?
Ben, comme je te dis, c'est ça. C'est une auteure qui est assez mystérieuse. On sait ça a été la première professeure titulaire à l'université de Gettysburg en Pennsylvanie. Mais on sait qu'elle a été mariée deux fois, qu'elle a fait beaucoup de voyages en Italie. Mais dans le contexte, peut-être qu'elle avait effectivement de la famille en Allemagne, mais peut-être pas non plus. Donc c'est vraiment réussir à s'imprégner justement d'une ambiance à travers les reportages qui filtrent, sûrement biaisés en plus, à partir de l'Europe et de l'Allemagne. Donc, c'est de réussir de saisir le discours, justement, puis les implications de ce discours-là que ça peut avoir sur la société. Donc.
Et si tu voulais me parler du roman plus précisément, de l'évolution dans le temps, qu'est-ce qui se passe?
Bon, oui. Comme je l'ai dit, on a le 33% de vote de l'Allemagne nazie, mais également, il y a une lettre, entre autres, qui se passe juste un petit peu après l'incendie du Reichstag, où ça a été un grand épisode, justement, qui a permis l'entrée au pouvoir d'Hitler. Et là où on remarque vraiment la radicalisation du discours, dans le propos de Martin. Et, plusieurs autres événements comme ça, où on voit la prise de pouvoir d'Hitler, où il devient vraiment le dictateur du pays. Encore une fois, juste regarder ici.
Ouais.
C'est la dissolution des autres partis.
On voit aussi l'appel...
Le NSDAP, le parti nazi, qui devient le seul parti en Allemagne. Et ici, vous avez le 27 février, entre la lettre du 25 mars et celle du 10 décembre 1932, vous avez vraiment une série d'événements, l'incendie du Reichstag, la fondation des camps de concentration qui est annoncée à travers la presse, et je peux dire aussi une citation dans le livre.
Oui,
où
oui,
très
oui,
bien
si
le propos, là, parce que vous avez, entre autres ici.
Parce qu'on sent aussi, à un moment donné, un appel à l'aide de la part du personnage juif qui est resté aux États-Unis, parce qu'il y a de la famille qui est en Allemagne. Il demande de l'aide à son ami, puis on sent à un moment donné qu'il n'y a plus aucune écoute.
Non, c'est ça. C'est un roman épistolaire à deux voix, mm-hmm. mais il y a quand même un personnage très important qui va amener beaucoup de chamboulement, qui est Griselle, la sœur de Max. Et donc, cette femme-là est une actrice... qui se produit partout en Autriche et en Allemagne, qui commence à faire justement sa place dans le milieu artistique. Et dans la rhétorique, dans le parti nazi va s'attaquer tout d'abord à la culture, justement parce qu'elle trouve que c'est investi par les Juifs à l'époque. Et donc on va tout simplement éradiquer justement la présence juive dans la culture pour se réapproprier une conscience collective. Donc, on voit justement cet appel-là où Griselle décide d'émigrer à Berlin, faire sa carrière à Berlin, et donc ça passe pas pour elle. On la traite de juive, et donc elle revendique justement cette appartenance-là à une communauté, à sa communauté religieuse, et elle va être obligée de tout simplement s'exiler et de chercher refuge chez Martin, qui est son ancien amant. Et bon, ça finit pas très bien pour elle, on s'en doute. Je laisse le
suspense pour le lecteur, qui le lira, oui.
Mais oui, il y a vraiment un appel où Max enjoint à Martin de prendre soin de sa sœur et de son ancienne amante. Il invoque ses sentiments qu'il peut encore avoir pour elle, mais en vain, ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Et justement, cette oreille de sourd-là va se retourner contre Martin plus tard, là. Quand justement il va être arrivé des choses très graves à sa sœur, il va avoir une vengeance, et la rhétorique va s'inverser, ou au sens où Martin valorisait l'action, le mouvement, et il reprochait justement aux Juifs leur passivité, aux libéraux aussi. Et c'est plutôt Max qui va devenir le principe actif du texte, et qui va et Martin, comme contre-coup, va devenir le principe passif qui va laisser la vengeance de son ancien ami se produire.
Parce qu'on voit aussi tranquillement comment s'installe le racisme dans la tête de l'Allemand, qui au départ est très 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 ouvert, il n'y a pas du tout de propos.
Oui, c'est comme des frères, la relation est vraiment posée dès le départ. Je pourrais peut-être. Je sais que David va lire tantôt des
oui,
extraits.
Oui,
là, je
ne
sais pas
oui.
exactement quels extraits.
Il le lit au complet.
Ah, mais il le lit au complet. Non, c'est vrai.
Oui.
Bon.
Mais c'est pas grave. Si tu as envie de lire un extrait, c'est correct. C'est...
je l'entends ronchonner en arrière. Bon, par exemple, la lettre du 9 juillet 1933, où Martin dit des choses, des atrocités dans le genre « Le juif est le bouc émissaire universel. Il doit bien y avoir une raison à cela, et ce n'est pas la superstition ancestrale consistant à les désigner comme les assassins du Christ qui éveille une telle méfiance à leur égard. » Quant aux ennuis juifs actuels, ils ne sont qu'accessoires. Quelque chose de plus important se prépare. Et c'est récurrent partout dans le texte.
Oui.
Il va parler, entre autres, d'un filet. Je ne me souviens plus exactement comment il dit ça. C'est un filet une écume trouble. Les persécutions contre les Juifs vont être, selon ces mots, une écume trouble dans le grand bouillon du changement qui se prépare dans la Renaissance à Wotan les invocations à Wotan et à Thor, justement, comme je disais, avec des traces de néo-paganisme qui est amené à l'époque par Himmler.
Ouais. Mais je pense que c'est vraiment la force de ce roman-là, c'est de voir à quel point on se laisse influencer par un discours tout à coup qui prend la place dans un pays, puis une personne qui est c'était même son meilleur ami, qui avait beaucoup d'amitié pour cette personne-là, se laisse complètement embarqué par le discours et finit par renier son amitié. en étant dans un bain ambiant d'une philosophie et d'une mentalité qui change.
Tu sais, on le voit un peu. Bon, j'ai lu un petit peu alentour de ça et justement, les relations familiale qui était complètement bouleversée, justement. Bon, est-ce que tu as un demi-quart de sang juif ou peu importe, tu sais. Lui-même, Hitler, avait sa mère qui était juive et son père qui est allemand. Et je me demande, tu sais, c'est sûr que c'était lui la base du mouvement, mais tu sais, il y a vraiment eu une exclusion par rapport à ça, tu sais, de plusieurs personnes où on avait approuvé notre ascendant allemand, notre pureté de race, et lui-même ne l'était pas. C'est quelque chose qui revient souvent, mais bon, c'est lui-même va être obligé de couper complètement les liens avec justement la famille de Max. Max et Grisel, il va couper les liens pour une raison sociale, qui est justement de garder sa position au sein de l'administration allemande, parce que lui-même va avoir une position, une grande famille, et avoir des contacts avec les jeunesses hitlériennes. Son fils va vouloir rentrer là-dedans, et c'est une grande fierté pour lui. Puis on sent que justement dans le discours de Max que c'est pas du tout ça serait pas supposé être une fierté, en tout cas, là, c'est de cet esprit-là, en tout cas, là.
Ben, c'est bien. Merci beaucoup, Gabriel.
Mais merci à toi.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter la pièce « My Warrior Shoes » de Karen O et on va revenir avec Mylène dans quelques minutes.
I took my lucky break and I broke it in two. Put on my worried shoes, my high worried shoes. Took me so many miles and they never wore out. My thank you.
Alors, c'était la pièce My Worried Shoes de Karen O. Et nous sommes de retour avec Mylène. Bonsoir, Mylène.
Bonsoir, Catherine.
Mylène va nous parler d'un texte qu'elle a découvert grâce à un éditeur qu'elle aime bien, Zuluma.
Oui, l'éditeur dont je vous avais parlé lors de la première chronique que j'avais faite.
Tout à fait. Ils ont décidé de faire paraître un texte, en fait, qui était un texte inédit et inconnu, qui s'appelle « Le chant du peuple juif assassiné » et qui a été écrit par quelqu'un d'assez intéressant. C'est M. Itzhak Katzenelson. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce.
Ishtak, j'ai vérifié.
Ishtak Katzenelson. Ouais. Et donc, lui, il a eu l'expérience pas très agréable d'avoir vécu dans le ghetto de Varsovie.
Oui, exactement. Donc, Ishtak Katzenelson, qui est né en 1886 en Biélorussie, qui est décédé en 1944. Dans le fond, lui, il est né dans une famille de lettrés. Puis, son père était directeur d'une école hébraïque. Puis c'est très tôt, il s'est mis à écrire de la poésie. Il était tisserand, mais il continuait comme ses études de lettres d'une manière autodidacte. Puis très tôt, il s'est mis à publier des poèmes en hébreu. Puis il a pris la relève aussi de son père comme directeur de l'école hébraïque que son père avait formée. Je pense que c'est... en tout cas, assez tôt dans sa vie, il a pris la relève. Puis il a dû quitter en 1939, là... Son poste. Donc, oui. Dans le fond, lui avec sa famille, il avait trois fils puis une femme. Puis il a passé en 1939, ils sont allés se réfugier en Cracovie. Puis finalement, lui, sa femme, parce qu'au début, un peu comme Gabriel le disait plus tôt, les poètes, les gens qui étaient, si on veut, les lettrés juifs étaient particulièrement ciblés. Puis étant donné que lui, en plus, était directeur d'une école hébraïque, puis qui était assez reconnu, bon, il écrivait en hébreu.
Un des premiers à être identifié.
C'est ça. Il a été un des premiers ciblés. Donc, il est allé se réfugier en premier en Varsovie. Puis sa famille est venue le rejoindre plus tard. Puis finalement, il y a eu la création du ghetto de Varsovie. Donc, il est resté dans le ghetto de 1940 à 1943. Ses deux plus jeunes fils puis sa femme ont été raflés, si on veut, pendant son absence. Donc, il n'y a eu aucun contrôle là-dessus. Ils ont été déportés puis gazés à Auschwitz. Donc, il a vécu, si on veut, les conditions du ghetto. Oui, mot sur le ghetto de Varsovie.
Oui,
dans le fond, ça a été le plus gros ghetto créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et très tôt, il y a eu des persécutions, dans le fond, envers les Juifs. Il y avait, on le voit souvent dans les films qui portent sur la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'obligation de porter un brassard blanc avec l'étoile de David pour identifier chaque Juif. Les magasins juifs aussi devaient être identifiés d'une manière à être reconnus. On coupait aussi l'accès... à l'information, il y avait interdiction, la radio était interdite, bon, des trucs comme ça. Puis, on les a entassés, dans le fond, au plus fort du ghetto. Bon, les chiffres sont pas... j'ai vu différents chiffres. Il y en a qui parlent de 380 000 personnes, d'autres qui parlent de 500 000 personnes qui se seraient entassées au plus fort là, du temps du ghetto de Varsovie.
Dans un espace assez réduit.
Oui, exactement. C'était 40% de la population de Varsovie qui était mis sur 8% de la superficie du territoire. Donc, dans le fond, la première année, là, on parlait de... C'était environ 7 personnes qui s'entassaient par pièce. Donc, on les traitait vraiment comme des rats, là, si on veut. On les affamait.
Oui, c'est ça. Il y avait une pénurie de nourriture, il y avait une pénurie de tous les biens.
Oui, exact. Puis on les... ils étaient obligés souvent de travailler. Puis lorsque, comme les deux plus jeunes fils de Ishtak ou sa femme, on n'était pas en mesure de travailler, d'être utile, entre guillemets, alors on était assez rapidement déportés. Chaque jour, en fait, les ghettos étaient gérés par le conseil juif. Donc, c'était certains d'entre eux qui devaient choisir... qui devait augmenter le nombre à chaque jour de gens qui allaient être déportés en se doutant, en sachant peut-être pas toujours qu'est-ce qui
advenait de ces gens-là, mais en se doutant
Se doutant très fort que, bon, ça annonçait rien de bon. Donc, c'est ça. Puis, souvent, le nombre a été augmenté. C'était environ 10 000 personnes par jour là, qui étaient déportées vers les camps. Puis, en 1942, il y a eu une déportation massive où là, vraiment, c'était jour et nuit. On raflait les gens, puis on prenait leurs biens, puis on les déportait. C'est tellement massif. Si on se fie au plus petit chiffre, là, 380 000 personnes, admettons qu'il y avait juste, entre guillemets, 380 000 personnes, ils ont ramené la population du ghetto à 70 000 personnes. Oui. Donc, c'est colossal comme job là, oui. qu'ils ont dû faire aussi oui. pour sortir oui. tous ces gens-là puis les déporter. Ça demandait vraiment une grande coordination des forces allemandes. Mm. Donc, tout était préparé, tout était... fait en conséquence. Il y a eu une insurrection quand
oui,
même.
Oui, c'est ça, lui, il a participé à la révolte de Varsovie. Oui, ils ont réussi à se révolter en étant affamés, en étant battus, en étant
harcelés. Oui, c'est 400 personnes environ qui ont participé à cette insurrection-là. Vraiment, ils savaient, là, ils se battaient pas pour... ils se battaient pas pour leur vie, mais pour la dignité humaine. Ils savaient là, qu'ils allaient tous mourir. De toute manière. C'était vraiment une manière symbolique. Puis les forces allemandes, c'était sûr qu'ils allaient prendre le dessus. Mais quand même, ils ne s'attendaient pas à une aussi grande résistance de la part des Juifs. Puis à la fin de cette insurrection-là, qui a quand même pris... qui a duré plusieurs semaines, même on parle de mois... il y a eu 6 000 juifs déportés et gazés, puis 7 000 tués sur place, là,
pendant
la révolte, qui n'ont pas été déportés. Puis il y avait même des femmes, des enfants qui se battaient. On entend souvent que les juifs auraient subi assez passivement hein, la Seconde oui. Guerre mondiale puis les persécutions, oui. mais quand même, c'est pas si vrai que ça.
Non, puis il y avait très peu de moyens pour se révolter aussi, il faut dire.
Hein. Oui, exact. Puis finalement, en 44, à la mi-juillet, en 44, Hitchcock a été déporté, dans le fond, au camp Vittel en France. Oui. Et là, les conditions étaient beaucoup plus, j'oserais dire, soft.
Oui, on dit que c'était un camp pour personnalité.
Oui, un camp pour personnalité. En fait, ce qu'on entend, c'est que c'était les gens qui avaient des passeports britanniques et des passeports américains qui étaient là. Puis il y avait même une micro-société britannique qui s'est comme reformée là-dedans, semble-t-il. Puis quand je parle de conditions qui étaient, semble-t-il, meilleures, c'est que, bon, on manquait pas de pain, on manquait pas de nourriture. Il y a même des femmes qui organisaient des conférences. Wow. Les cultes étaient permis. Je veux dire, c'est pas un camp de concentration. Donc, la rédaction du récit du chant du peuple juif assassiné s'est faite sur place au camp Vittel en France. Moi, au début... j'avais un peu l'image du camp Vittel comme un camp de concentration. Puis je me demandais comment...
Il avait pu faire ça, hein?
Qui avait pu écrire, le cacher, bon... mais finalement, en apprenant un peu plus sur le camp Vittel, j'ai un peu plus compris là, comment c'était possible. Parce que quand même, quand t'es en mode survie, on s'entend que la création artistique, le témoignage, se fait plus difficilement.
C'est un récit poétique, hein?
C'est un poème narratif, dans le fond, un long poème narratif. Donc, oui, ça peut prendre la forme d'un récit. C'est composé de 15 chants, de 15 versets. Puis chacun des versets est composé de 4 vers. Donc, c'est une forme assez rigide. D'ailleurs, comment je pourrais dire? Hitchcock, Katynesna, était considéré comme un poète romantique un peu. Okay. Bon. Donc, c'est ça. Sauf que il n'y a pas d'ordre chronologique. Il y a beaucoup de ressouvenances, d'émergence de souvenirs, de trucs qu'il a vécu. pendant sa déportation, avant les persécutions, pendant, de choses qu'il a vues qui sont arrivées à lui ou qui ont entendu. Ça prend la forme d'un témoignage, mais il passe du « je » au « tu ». Okay. Il fait référence à la Bible souvent, puis au livre des Lamentations. Donc, tu vois, tu sens à la lecture que c'est un lettré. Mais aussi, c'est un peu, malgré la forme très, très rigide du poème, c'est un peu le chaos. Tu sais, okay. on sent, c'est des éclats, c'est des... Il y a... Comment je pourrais dire? On voit qu'il est obligé de construire quelque chose qui est innommable, tu sais, mm-hmm. qui est pas racontable. Mm. Donc, il est placé devant cette difficulté-là et ça donne quelque chose d'assez ambigu, de paradoxal parfois. Donc, on est obligé de se laisser mener par ça. Puis, il y a plusieurs analyses qui disent que c'est un peu la poétique du cri qu'on retrouve chez les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, si on pense, bon, à Jérémie, à, tu sais, les prophètes qui vont crier à Dieu, qui ont pas le choix de d'hurler, là.
Oui, oui.
Mais, tu sais, pour se faire entendre, pour... Puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que en lisant là-dessus, j'ai découvert que au camp Vittel puis à d'autres endroits, les enfants, les adultes, tout le monde se mettait à écrire, à essayer de témoigner de ce qu'ils vivaient, en sachant une forme que, oui, il n'y a peut-être pas eu de résistance physique de la part des Juifs, mais il y a eu une résistance culturelle.
Un désir de que ça se sache, de parler.
Oui,
de témoigner,
de dire cette souffrance-là.
Ouais.
Aux générations futures. Donc, il y a plein de récits, de photos qui se sont trouvées. On parle de... Il y aurait trouvé des photos dans des tubes de dentifrice. Hey. On cachait ça n'importe où. D'ailleurs, le chant du peuple juif assassiné, Yitzhak en avait caché 6 au camp Vittel, dans la terre, dans le fond, dans des récipients plus ou moins hermétiques, enterrés. Et il y en a un qui a réussi. Il y avait une bonne amie à lui qui a donné un de ses poèmes, une des copies, dans le fond, à une journalière française qui travaillait au camp Vittel. Puis elle a réussi à le sortir du camp dans une poignée de valises. Dans le fond, le récit était caché là. Donc, c'est quand même assez... aujourd'hui, en Pologne, on ne sait pas combien d'artefacts, si on veut, sont cachés. Puis semble-t-il que même au ghetto de Varsovie, il y avait beaucoup, beaucoup de textes de gens qui avaient écrit, qui des journaux, qui ont été détruits en même temps que le camp, là, dans le fond. Puis ben, pour terminer un peu la petite histoire de Yitzhak, il a été pris avec son fils, il a été déporté. En 1944.
C'est ça.
Et après avoir passé plus ou moins un an au camp Vittel.
On peut s'imaginer qu'il a écrit ce texte-là sur un temps d'environ un an.
Oui, mais même pas, parce que les 3 premiers mois, il racontait qu'il avait essayé d'écrire autre chose. Il s'était comme hors plongée, puis ça ne marchait pas du tout, parce qu'il était assailli, il était hanté par les images du ghetto de Varsovie, puis il se sentait même mort de ne plus être là. T'sais, il n'était plus avec nécessairement sa communauté ou bon. L'acte de résistance était plus nécessairement là. Puis c'est vraiment en commençant à écrire ça que là, il s'est senti remobilisé, si on veut. Donc, on parle peut-être de 6 mois.
Okay.
Puis il a écrit d'autres choses. Là. Il a même réussi...
Il a produit beaucoup.
Oui, il a même réussi à produire des pièces de théâtre pour les enfants, des trucs comme ça. Donc, pendant qu'il était là-bas. Puis lui et son fils, ils ont été gazés, dans le fond, à leur arrivée, là, directement en 1944 à Auschwitz. Ouais.
Bien, merci beaucoup, Mylène, pour ce témoignage, en fait. On va s'arrêter quelques instants pour écouter la pièce musicale City Life de Casualties et nous vous revenons ensuite avec une entrevue événement du mois avec Edmé Étienne qui va lire un de ses poèmes. À tout de suite.
le perçage de l'offrande à mes chums. La douleur heureuse des parias, en ces circonstances que l'on dit intimes, est semblable à celle éprouvée lors du perçage du gland. Le sceau de paix qui provient de ta conscience et de ta solitude, en ces moments de joie où tu pourrais bien crever, avec une foi de bonne arienne et un corps grand comme l'Édain. Le camp d'éducation gratuit et obligatoire. Soulage ton ardeur dans l'extase insalubre de la poésie. Invente des sacrements comme on brûle un billet de banque. Ton anarchie inestimable est un coït avec le délice tragique. Donne ta vie au désir pendant que le baiser de la loi dilue ses flatulences dans la soutane du pape. Renverse le sacrifice du capital avec ta révolte désarmée. Pleure le cœur gorgé d'amour lors du mémorial paradisiaque sans taxe. Ne mentionne jamais le commerce, mais demain va briser la romance des banques et l'écrasante spiritualité à forfait de leur révolution pitoyable. Et si un jour le marché te crucifie, tu n'auras plus qu'à ressusciter à l'instar d'Elvis et de ses saints.
Merci beaucoup, Edmé. Comment ça s'appelait, ce poème?
Ça, c'était le camp d'éducation gratuit et obligatoire. Le premier, c'était le perçage de l'offrande.
Le perçage de l'offrande. Et tu appelles ça de la poésie garage.
Moi, ben, on peut changer ça de plein de manières. Là. Des fois, c'est de la poésie punk rock. Des fois, c'est de la poésie garage. Des fois, c'est de la poésie underground. Ça peut être de la poésie trash. Ça peut être n'importe quoi. Là. Dans le sens... On joue un peu avec les mots, dépendant, je dis on, c'est parce que c'est moi un peu. Les récitals qu'on fait, c'est un peu un duo. Il y a, okay. Il y a Corner Paradis, mon collègue de poésie,
okay.
Qui est à guitare électrique, moi qui est au micro. Les récitals en duo qu'on organise, c'est ça, là, c'est tout le temps, ça oscille en différentes appellations parce qu'on rit avec ça. Puis... Mais dans le fond, le fondement de ça, c'est une poésie, dans le fond. Ben, qui. Je pense Ben, pour parler de nos enfants, qu'est-ce qui est trash dans patente, je pourrais parler un peu de mon rapport à la société puis à la poésie, pourquoi je suis poète. Dans le fond, c'est parce que présentement, moi, je suis un révolté. Je me pose complètement en rupture avec ce système-là de marde, là, que ce soit le tout, soit c'est ça, whatever, sous toutes ses formes. On vit dans un monde où est-ce que la laideur est comme rendu une hégémonie, une oligarchie, un pouvoir. La laideur, dans le fond, c'est rendu la déformation de la réalité séquestrée par l'argent. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, moi, en tant que poète, ce que je tente de faire, c'est d'apporter un peu de beauté, que ce soit dans ma laideur de marginal, parce que la société, dans le fond, considère la bonne morale, considère comme laid tout ce qui ne convient pas à sa vision capitaliste des choses. Donc, effectivement, je serais sûrement un laid pour bien du monde. C'est ce que bien des regards des fois dans la rue me font dire. Puis d'un autre côté, c'est qu'il y a d'autres choses, moi, que je trouve laites ou beaux, qui se trouvent à être soit ce monde-là d'oppression avec ses innombrables lois, machinations, collusions, etc., qui créent un réel de marde, ou la poésie, dans le fond, qui serait un peu le dernier bastion de la liberté humaine, le dernier bastion de tout ce qu'il pourrait y avoir d'encore humain dans une lutte politique. Dans une lutte poétique, c'est ça. La poésie, pour moi, c'est le bastion de la liberté. Puis nécessairement, en me posant en rupture avec un système qui fait l'apologie d'une forme de laideur sociale, laideur économique, politique, ben nécessairement, c'est la beauté a un sens révolutionnaire. Là,
et comment t'en es venu à la poésie? Tu vois, comment t'as découvert l'expression poétique?
Je l'ai découvert par des poètes anarchistes, notamment comme Georges Brassens, Léo Ferré.
Okay.
Je l'ai découvert avec la culture punk. La culture punk qui, dans le fond, avec ses poètes, des poètes notamment anglais, là, comme Crass, d'autres poètes proches de la culture punk, comme Patti Smith, etc. Mais dans le fond, moi, ce qui m'a amené à vouer ma vie à la poésie, ça fait environ 15 ans que je me vois à une œuvre, là. Puis c'est un choix de conscience personnelle. C'est moi, sais, je veux dire, face à la situation, je voulais vouer ma vie à une vocation. J'ai toujours, c'est ça, tu sais, puis au travers de cette vocation-là, ben, c'est ça, tu sais, toute ma révolte, ma politique, ma poétique, même ma spiritualité passe par l'expression poétique. Pour moi, c'est la poésie, c'est un mode d'expression qui englobe tous les domaines du réel, tu sais, qui puis dans lequel on peut pas s'investir en se gardant quelque chose, tu sais, je veux dire, c'est comme...
Puis les textes que tu viens de nous lire, c'est extrait d'un recueil de poèmes, un de tes recueils de poèmes, c'est le quatrième que tu publies?
Quatrième, c'est ça, Ballonné spirituel à crédit. Non, parce que la dernière fois, juste pour dire ça, ce que je voulais dire tantôt, c'est... pour moi, la poésie existe toute ta vie, tu sais.
Ouais.
C'est juste ça que je voulais dire, tu sais, puis c'est comme...
Mais toi, t'écris tous les jours, toi, c'est ton but, c'est ce qui te donne envie de vivre.
Moi, je suis un assisté social, ça fait que j'ai pas de métier autre que la poésie. Toute ma poésie, c'est autoproduite. J'ai 4 livres à mon actif, dans le fond. Le premier, c'est Le sacrifice de la troupe d'égout. Le deuxième, La noce anarchiste, l'amour punk rock. Le troisième, qui se trouve à être... L'Eucharistie trash, puis le dernier, Ballonné spirituel à crédit. C'est toute des poésies, c'est toute poésie dessin.
Et ton partenaire, Coroner Paradis, il écrit lui aussi? Il avait aussi publié?
Oui, il a publié un livre dans le même collectif d'édition, d'auto-édition, c'est-à-dire les éditions du Golgotha. C'est ça. Dans le fond, il a publié là, Total Fuck d'amour dans le sang.
Ah, c'est ça.
Un recueil de poèmes, moi, qui m'a marqué. Mais avec quand on monte des récitals duo, récitals de poésie garage, punk rock ou etc., c'est toujours des récitals dans le fond où lui se trouve à être soit à guitare ou à basse, puis moi à la poésie là.
Ok. Et donc vous allez être ici dans quelques jours. Vous allez être ici le 9 mars, donc vendredi.
Vendredi prochain, c'est ça.
Un récital de poésie garage qui s'appelle
La castration du pape.
La castration du pape.
Ouais. Non, mais c'est comme si ça faisait longtemps qu'on voulait appeler ça la castration du pape. Là,
okay.
Trouver le sens que vous voulez à ça, dans le sens, moi, je suis un poète, je suis pas là nécessairement pour justifier le sens de ce que je fais, tant que pour moi-même lui donner un sens. Puis là-dedans, je suis conscient que les autres leur donnent le sens qu'ils veulent. Ça fait que c'est pas à moi d'orienter les oreilles de l'auditeur pour y découvrir ce qu'il veut. Oui, dans le fond, je vous invite à y venir.
C'est ce que j'allais dire. La meilleure manière, c'est de venir entendre le récital puis de se faire sa propre idée.
Je crois que vous pourrez rester peut-être un petit dernier poème de Ballonné spirituel.
Avec plaisir. Fais-nous un dernier. Puis après, donc, on va faire une pause musicale. On va écouter la symphonie numéro 7, deuxième mouvement. Mais un dernier poème de Edmé Étienne avant.
L'électrochoc de la société. À elle. Et à Dieu. La prière s'élève comme un orgasme des braises de l'asile éteint, libérant avec elle la folie entravée lors de siècles d'imbécilité notoire sous le ciel dont on dit qu'il ne viendra pas. Nous avons vu tous les ailleurs. La souffrance ne pourrait pas être plus belle, ni l'amour plus sauvage. Épouse-moi, ma belle, au-devant de cette cohorte d'animaux et de rebuts. La spiritualité a fait de nous des parias, et notre marde n'en est pas moins pure. Épouse-moi comme on couche dehors, comme on dit la vérité, avec l'ivresse du dernier moment, au refuge d'une nuit froide, lorsque toute la beauté du monde existe dans les mots d'amour que tu professes.
Merci beaucoup. Alors, c'était, si vous ne l'aviez pas reconnu, la symphonie numéro 7 de Beethoven, deuxième mouvement. Et nous sommes de retour avec le deuxième volet de notre série « La littérature pour comprendre le monde » en compagnie de David. Bonsoir, David.
Bonsoir, Catherine.
Alors, David, tu vas nous faire une revue de littérature, ou plutôt une revue des témoignages des survivants des camps de la mort.
En fait, ce sera une revue très lacunaire et pourtant essentielle de la littérature dans les camps de concentration, différents camps. Et évidemment, la liste exhaustive aurait pris 8 heures, probablement. Non, j'exagère, mais...
Oui, mais c'est écrit beaucoup de livres, effectivement. Absolument. Sur les camps de concentration.
Absolument. Et depuis la réouverture des archives, depuis quelques années, en fait, on a la chance, ou en tout cas la malchance, parce que quand on découvre ce qu'est l'être humain...
c'est pas toujours réjouissant.
Ouais, exact. Mais oui, on a la chance d'avoir des documents importants, très importants, ouais, qui ont été publiés récemment, après même des fois 50 ans de silence.
Oui, c'est ça. Tu nous en as sélectionné 5.
Oui, ben je vous en ai... Ben, au moins 5, ouais, c'est ça. Il y en a évidemment beaucoup plus. Seulement, pour faire, je vous dirais, un petit tour de la question... Évidemment, lacunaire, comme je l'ai dit. Un petit tour de la question, j'ai sélectionné, entre autres, deux romans qui sont, à mon avis, essentiels et parfois même la réalité dépasse la fiction. J'ai nommé Georges Champrun, qui a écrit Le Grand Voyage. Georges Champrun, un espagnol, je ne vois pas pourquoi j'ai dit nationaliste, un espagnol, pardon, qui a été arrêté, lui, presque à la fin de la guerre, et qui raconte dans Le Grand Voyage ce que devait être l'enfer, en fait,
il faisait partie de la résistance, lui?
Oui, il faisait partie de la résistance. Écoutez, ça, je suis désolé, mais ça fait un bout de temps que j'ai lu ce bouquin-là, et je m'en rappelle malheureusement plus très bien, donc je le nomme comme ça au passage, pour faire un voyage horrible.
Mais on doit dire quand même qu'il a été déporté au camp de concentration de Buchenwald.
Oui.
Et j'ai lu qu'il était chargé d'organiser des activités culturelles pour les déportés espagnols. Mais là...
activités culturelles, hein.
Ça fait assez drôle de dire ça. Hein?
Oui, absolument. Ben, je veux dire, le cynisme allemand à l'époque allait même jusqu'à, par exemple, mettre un orchestre qui jouait des marches militaires allemandes.
C'est incroyable.
Ouais, pour le retour du travail de chaque commando de travail à l'époque. Ouais, non, ça.
Et donc, Le Grand Voyage, mais il a participé à un soulèvement durant le temps où il était à Buchenwald.
Mais je me rappelle plus.
Oui, c'est ça.
Non, ça fait trop longtemps. Seulement, je me rappelle que c'était un excellent bouquin, principalement, en fait, sur le voyage en train, hein, qui pouvait durer
quelques semaines. C'est pour ça que ça s'appelle Le Grand Voyage. C'est sur les convois, là.
Exactement. Sur le convoi, sur l'horreur de ce que devait être un convoi à 80 personnes dans un endroit où il y aurait rentré normalement 30 bestiaux maximum. Mmh. Donc, 80 personnes, ouais, qui... n'ont rien à manger, n'ont pas de toilette, sinon un seau de fortune qui se remplit quand même assez rapidement.
Il y en a beaucoup qui mouraient d'ailleurs durant le voyage.
Oui, ben évidemment beaucoup. Un, c'était déjà trop, mais beaucoup, malheureusement. Ben non, je vais dire n'importe quoi. J'allais, ben c'est ça exactement. Est-ce que valait mieux
Parce
mourir dans le wagon
pire,
ou ouais, c'est ça après. Fait que c'est une question un peu embêtante. Je n'y étais pas, fait que je peux pas dire lequel était le mieux. Seulement, je sais que d'aucuns ont souhaité la mort et plus d'une fois après le voyage. Même si les conditions étaient horribles, on savait pas où on allait, on savait pas combien de temps on allait voyager, etc. Les conditions étaient horribles, il faisait froid ou chaud, c'est selon. Mais les voyages se passaient surtout l'hiver, et on en gelait et on se déféquait dessus.
C'est un texte qui est véritablement concentré sur ça.
Oui, exactement. Surtout sur le voyage. Évidemment, on en descend un jour de ce foutu train. Et là, c'est pas plus drôle, mais c'est ça. C'est quand même un roman important et déconcertant.
Donc, Georges Champrun.
Champrun, oui.
S-E-M-P-R-U-N, Le Grand Voyage.
Oui, publié chez Folio Gallimard. Assez facile à trouver. Et oui, très intéressant.
Oui. Publié en 63.
Pardon.
Et ensuite?
Ensuite, un de mes préférés, pour les mauvaises raisons, mais Virgil Georgiou, un Roumain qui est passé, lui aussi, par les camps et qui a écrit tout de suite après, en 49, qui a écrit en français d'abord, parce que c'était interdit de publication en Roumanie, c'était encore l'URSS, puis... puis on ne pouvait pas publier ça, mais qui a écrit un roman, les mots manquent, mais d'un défaitisme, puis d'une... comment on dit?
C'est cynique, c'est critique, c'est...
Oui, c'est très, très cynique. En fait, il y a un des personnages là-dedans qui est très cynique, en fait, très, très, très éveillé, très cynique, c'est Trajan Koruga, le fils d'un prêtre qui, lui, avait déjà, dans le roman, puis on s'entend que le roman, au dire même de Georgiou, qui, dans sa préface, qui rarement, d'ailleurs, préface lui-même un de ses bouquins, seulement dans celui-ci, il a considéré que c'était très important d'en faire lui-même la préface pour dire que ce roman-là dépassait la fiction, en fait, que tout ce qui était arrivé là-dedans était vrai, était souvent atténué parce que il n'y a rien qui se compare avec l'expérience vécue. Donc tout ce qui est arrivé là-dedans est arrivé soit à lui, soit à sa femme, soit à des gens de leur entourage ou en tout cas leur co-détenus. Un roman d'une horreur extrême qui tue en fait tout optimisme chez ceux qui ont encore des velléités.
Ça s'appelle La 25e heure et effectivement, moi aussi je l'ai lu et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il passe d'un côté à l'autre, d'un camp à l'autre, on lui donne des identités différentes et c'est toujours le papier qui dit vrai, il a beau dire non, moi je suis roumain, il dit non, toi t'es juif, et à un moment donné il fait moi je suis juif, il dit non, t'es pas juif, t'es à rien. C'est complètement absurde.
Ouais,
c'est un univers absurde.
Ben, en fait, c'est une histoire, mais totalement banale. Un mec qui désire la femme d'un des protagonistes, d'ailleurs protagoniste qui est encore étudié aujourd'hui chez les psychologues, parce qu'il est lui-même, en fait, la victime par excellence. En fait, tout ce qu'on lui fait subir, il le subit sans froncher,
Il essaie de s'adapter toujours à la situation, puis de faire, oui, d'accord, vous voulez que ce soit ça, je vais essayer de faire ça.
Je dirais même pas qu'il essaie de s'adapter, je dirais qu'il s'adapte automatiquement. En fait, on lui dit, t'es un juif, bon, je suis un juif, tu dois travailler, tu dois pousser des gens dans la fosse commune, tu dois assassiner des gens, nanana. Tout ça, il le fait. Un jour, on lui dit, voilà le prototype parfait de l'allemand arien, nanana. Puis oui. Là, oups, il se retrouve à rien tout d'un coup. Et ça, je dois dire, c'est pas Trajan Koruga le critique, mais c'est bien la victime parfaite. J'ai nommé Johan Moritz, qui est un personnage dont on voudrait un peu brasser la cage et qui pourtant, on peut pas le faire parce que c'est un bouquin. Mais non, c'est ça. Puis je pensais à Trajan Koruga qui disait dans son grand optimisme. Je vous en lis en fait juste un micro-extrait, d'où le nom du roman est tiré, La 25e heure, donc. La 25e heure, dit Trajan, le moment où toute tentative de sauvetage devient inutile. Même la venue d'un messie ne résoudrait rien. Ce n'est pas la dernière heure, c'est une heure après la dernière heure, le temps précis de la société occidentale. C'est l'heure actuelle, l'heure exacte. Et là, donc ça se trouve en début de roman. On a ensuite un bon 400 pages pour étayer, montrer à quel point il a raison. Et ouais, un livre d'une horreur totale.
On dit que ce roman est une remise en question radicale de l'homme du 20e siècle.
Absolument.
De son indifférence à autrui et de sa cruauté. Mm-hmm. La menace de la robotisation de la société y est donc dénoncée tant dans le totalitarisme hitlérien que dans la démocratie simpliste à l'américaine. Et d'ailleurs, là-dessus, Virgile Georgiou a une destinée assez intéressante.
Oui. Ben, en fait, sans parler de sa destinée, c'est un bon point que tu soulèves, Catherine. Ce livre-là ne s'arrête pas à démoniser, en fait, l'allemand, l'allemand de l'époque, mais montre bien à quel point l'homme a un allemand potentiel en lui. Et là, pardonnez les Allemands contemporains, mais je pense après la libération, pardon, ou même pendant que les Juifs sont dans les camps et qu'on voit, ou en tout cas qu'on pressent l'arrivée de l'armée russe, les gens, en fait, les condamnés ont presque plus peur de l'avancée russe que de continuer à subir le sort qu'ils connaissent déjà, par les Allemands.
Ouais.
Après ça, on voit les Américains qui libèrent les camps et les Américains qui traitent de la même manière, en fait, que les Allemands ont traité les Juifs, les Américains qui traitent les Allemands de la même manière, c'est ça. Fait qu'en fait, tout le monde y passe. l'homme est homme et l'homme est un loup pour l'homme. Et je voudrais finir, tiens, de parler de Georgiou en citant la dernière phrase, malgré que c'est pas très fin. Non, je vous la dirai pas. Mais en fait,
oui, parce que cette phrase-là, c'est vraiment un punch quand on arrive à la fin.
C'est un punch. Mais lisez absolument la 25e heure.
C'est vraiment à lire absolument. Et je veux seulement dire que Georgiou a connu, lui, les prisons américaines.
Absolument.
En Allemagne.
Oui.
Donc, il sait de quoi il parle, parce que les gens peuvent dire, voyons, ils exagèrent. C'est pas vrai que les Américains ont traité les Allemands comme ça. Mais oui, c'est vrai.
Exactement.
Et lui, il l'a vécu. Et c'est un roman vraiment absolument fabuleux. Il faut que vous disiez ça.
Oui, ça.
La 25e heure. Ça a été publié en 1949.
Oui, en français directement, comme je disais tantôt, interdit de publication en Roumanie. Oui, donc publié en français pour la première fois en 1950 aux éditions Plomb. Il a été refait dernièrement chez Pocket et j'en suis bien heureux. C'est un roman qui est tombé dans l'oubli, en fait, pendant plusieurs années. Je sais que la génération de mes parents l'avait lu et depuis, franchement, je ne vois plus qui lisait ça jusqu'à ce qu'il soit redécouvert et sorti de ses cendres. Et en fait, il ne devrait plus jamais y retourner.
On vous le conseille absolument.
Ah oui, absolument. S'il y a une lecture essentielle, en fait, je dirais même comme un de mes collègues, vous n'avez pas le droit de vivre si vous n'avez pas lu ça.
D'accord. Alors, on vous l'a dit. Next.
En fait, je vous parle d'une autre que j'ai lue il y a quelques années et dont le souvenir est plus très frais. C'est Germaine Tillion. Germaine Tillion, anthropologue de formation, anthropologue même avant d'avoir été, elle aussi, internée à Ravensbrück. Tant qu'à ça, à Mauthausen, puis tout ça, mais surtout à Ravensbrück, et elle fait, puis c'est ça qui est formidable avec l'étude de Tillion sur Ravensbrück, c'est qu'elle a analysé ça, elle, d'un point de vue scientifique. En fait, elle l'a subi, mais elle avait toujours la lucidité scientifique d'analyser, de colliger, de consigner dans sa mémoire les événements qu'elle vivait, de faire la froide analyse de tout le fonctionnement des camps. C'est ça, en fait. Fait que ça en fait une étude riche au possible.
Puis il y a moins de textes, en tout cas, qui a été fait sur les camps des femmes.
Oui, absolument.
Mais il y en a moins que des hommes. Non?
Ouais. Peut-être. Je ne sais pas.
Il me semble. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu, le témoignage des femmes est quand même en littérature en général.
Oui, c'est fort possible. De toute façon, les femmes, dépendamment évidemment des camps, je sais qu'à Ravensbrück, c'était un camp principalement pour les femmes. C'est ça. Elle parle, entre autres, des lapines. Peu importe. Mais oui, c'est ça. Donc, camp de femmes, camp, non pas d'extermination, mais camp de travail comme tel, parce que c'est ça, il y a des différences entre les camps, évidemment.
Oui.
On assassine pas froidement... on assassine froidement partout, mais disons que la volonté de faire disparaître, comme il s'est passé à Auschwitz-Birkenau, ça, c'était pas partout. C'est difficile de grader le mal, mais il y avait quand même des camps, j'hésite à dire moins pires que d'autres, mais je le dirai pourtant.
Germaine Tillion a aussi fait partie de la résistance avant d'être déportée.
Oui, elle faisait partie d'un mouvement de résistance qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, en fait.
Moi, j'ai le groupe du Musée de l'Homme.
Oui, exactement, le Musée de l'Homme, exactement. Résistante déjà, elle a quand même pas mal œuvré à la lutte et à l'information, contre l'Allemagne, et pourtant s'est fait prendre comme bien d'autres, et a été déportée, c'est ça. Elle a été déportée avec sa mère, nous fait le récit tragique de la mort de sa mère, auquel elle a assisté une des... C'est ça, les mots sont à double sens, c'est tout le temps un peu difficile à utiliser, mais elle a eu la chance, si je peux me permettre l'expression, elle a eu la chance, comparativement à tous les autres qui sont morts, sans même que personne le sache, sans qu'aucun des membres de leur famille, ils étaient séparés à la sortie du train, puis ils ne le revoyaient plus jamais, même s'ils étaient encore vivants, ils ne revoyaient plus jamais le reste de leur famille. Germaine Tillion a eu la chance, la chance, entre guillemets, de pouvoir aller voir quelquefois sa mère mourante. Elle a connu des instants de solidarité qui sont, je vous dirais, très rares dans les camps d'hommes, en tout cas, ou dans la plupart des camps, quand il faut lutter pour sa survie.
C'est chacun pour soi.
Chacun pour soi, advienne que pourra. Et puis, je vous dirais qu'à Ravensbrück, en fait, plus longtemps on est dans un camp, L'homme s'habitue à tout, hein, disait entre autres Primo Levi. Plus longtemps on est dans les camps, plus on se crée de réseau, plus on se crée d'amitié, entre guillemets, ou d'amitié même véritable. Puis dans le cas de Tillion, ouais, c'est ça. Elle a eu un réseau à l'intérieur aussi et a analysé scientifiquement et froidement.
Oui, c'est ça. C'est le regard anthropologique qui est l'intérêt de ce texte-là. Oui,
absolument.
Puis la particularité des camps de femmes aussi, peut-être.
Exact. Et d'ailleurs, pour l'immensité de l'information, les chiffres véritables des études, pas à la va-vite, là, mais des études surprenantes, tout est publié là-dedans. Je pense à la dernière réédition du bouquin Ravensbrück de Germaine Tillion aux éditions du Seuil ou Point dans le format poche. La dernière édition date de 88, donc avec beaucoup d'ajouts d'informations.
Mais je pense qu'il a été publié en 88, elle a écrit beaucoup plus tard.
La première édition, 73.
Ah oui?
Ouais. Mais on en a refait une réédition. Puis voyez-vous, celle que j'ai dans les mains date de...
Okay.
Je me demande si c'est pas... Bon, vous le trouverez pas juste pour le plaisir de parler pour rien dire. Ouais, donc c'est ça. Bon, en tout cas, 88, ce que je vois ici, la réédition. Et ouais, une œuvre majeure pour comprendre, en tout cas, le fonctionnement froid et précis des camps de concentration.
De toute cette horreur-là.
Oui, mais malgré que, c'est ça, elle parle de Ravensbrück principalement, duquel on peut tirer des corrélations et des liens, des atomes, pas des atomes crochus, mais des liens avec les autres camps, mais qui n'étaient évidemment pas le plus noir des camps.
Et on va y arriver, au plus noir des camps?
Encore là, je mettrai un bémol. Mais oui, en tout cas, certainement un des plus noirs ou le plus tristement célèbre. On parle de Auschwitz et de Birkenau, son annexe où... Où on a massacré le plus grand nombre de Juifs, malgré qu'il y avait quand même, c'est ça, je pense à d'autres camps comme Dachau, Buchenwald et bien d'autres encore. La liste aussi est très longue des camps de concentration. Il y en a eu partout, même en Allemagne, malgré ce qu'on en a dit, on a eu en Allemagne aussi. Okay. Auschwitz-Birkenau, endroit où Primo Levi. Et Shlomo Venedia, mais je vais parler principalement de ces deux-là. Primo, parce que je les ai relus dernièrement. Et Deuxio, parce que, pour comprendre l'ampleur du phénomène, ces deux-là, en tout cas, s'il n'y en avait que deux seuls à lire, et là, je parle d'œuvres, non pas de fiction, mais de témoignages.
Oui, ce sont tous des témoignages.
Ce sont tous des témoignages fictionnels dans certains cas. Je pense à Georgiou ou à Semprun, mais dans les autres cas, ce sont de véritables et d'authentiques témoignages, et je pense surtout à Venedia, même Primo Levi aussi.
Oui.
Les deux ont refusé en fait de parler de choses qu'ils n'avaient pas vues directement, ont refusé tous les oui-dire, les rumeurs, etc., et se sont bornés à écrire seulement sur leur expérience personnelle, donc choses qu'ils ont vues, subies
directement,
exactement. Donc, Primo Levi?
Primo Levi, oui, allons-y. Primo Levi, si c'est un homme, je pense que c'est un des plus célèbres textes, témoignages qui a été fait sur les camps.
Oui, exact. D'autant plus que Primo Levi a eu l'envie, ou plutôt par devoir, s'est dit, et a fait en fait plusieurs conférences après les camps, jusqu'à son... une hypothétique suicide, on en reparlera peut-être plus tard. Disons, jusqu'en 87, en tout cas, il a témoigné dans les écoles, a donné des conférences un peu partout pour raconter l'inénarrable. Devoir de mémoire, exactement. Même chose que Venedia, mais Venedia, beaucoup plus tard. Donc, c'est ça. Primo Levi, scientifique lui aussi, jeune chimiste à l'époque... qui s'est fait déporter lui aussi sur le tard en 1943, si ma mémoire est bonne, et qui est arrivé, et qui lui, c'est ça, raconte de manière, je vous dirais, assez froide jusqu'à un certain point, tout ce qui lui est arrivé, du voyage, en fait, plutôt de l'arrestation au voyage en train, qui a duré dans son cas, j'ai oublié, mais en tout cas, qui a duré un certain temps dans son cas, donc du voyage dans l'inconnu avec toutes les mauvaises conditions dont on parlait tout à l'heure, au débarquement, à la fanfare, au camp de travail, aux différents commandos de travail et aux manières en fait de survivre dans tout ça.
Il a été emprisonné moins d'un an. Hein. Puis tu le lis, puis tu vois que d'un mois à l'autre, il se demande comment il va faire pour passer le mois prochain.
Exactement.
Puis, très certainement qu'il voyait bien que personne n'avait plus qu'un an de vie dans les camps, que tu peux pas passer plus qu'un an là.
C'est pas entièrement vrai. Primo Levi était considéré comme un gros numéro. Les gros numéros, c'est ceux qui étaient dans les... Et je me rappelle pas exactement le chiffre, mais bon, Primo était un 178 000 quelque chose. Donc, un gros numéro, un jeune, naïf, avec encore des possibilités d'espoir, des questions niaiseuses à poser à ses co-détenus, etc.
Mais il est arrivé là en février 44.
Exactement, 44. Donc, sur le tard, mais il restait quand même, c'est ça, encore presque un an à l'expérience et un an, disons qu'un an là, c'est l'équivalent d'une vie dans notre société moderne.
Quoique
c'est ça, je suis pas sûr.
La comparaison est bizarre.
Pas sûr non plus. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est un an sous le gouvernement Charest. Non, je plaisante encore. Ouais, non, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis Primo, en fait, ce qui est intéressant de son bouquin, c'est... en fait, c'est ça. Il s'acharne à expliquer comment on perd son statut d'homme et comment on le regagne jusqu'à un certain point. Il y a quelques passages vraiment troublants. Que j'ai oublié de noter, mais
des petits papiers roses.
Moi, j'ai des petits papiers rouges, mais c'était pas l'extrait que je voulais noter. En fait, c'est ça. Il parlait. Je vais essayer de le citer grosso modo de mémoire. On est un homme quand on tue un autre homme. On est un homme quand on assiste au meurtre d'un autre homme, mais on n'est plus un homme quand on dort avec un cadavre à côté de soi ou des choses comme ça. Ce qui lui est arrivé, parce que Primo a été là jusqu'à la libération. Il faut dire que, en fait, Primo a eu la chance ou malchance, et encore une fois, c'est selon, et on ne sait pas ce qui serait advenu de lui s'il avait participé à la Grande Marche. Primo était malade au moment de l'évacuation du camp, parce qu'il faut savoir... En fait, vous savez sans doute que les Russes ont commencé à bombarder, à pilonner le territoire vers l'est et puis se rapprochaient de plus en plus d'Auschwitz. Et les Allemands, prenant peur, ont fait évacuer le camp pour les transférer un peu plus vers l'ouest, un peu plus à l'intérieur des terres allemandes ou vers d'autres camps. Et puis, plus les Russes arrivaient et plus on paniquait et plus l'autorité, en fait, se relâchait. Puis Primo, c'est ça, est tombé malade. Scarlatine, si ma mémoire est bonne, vers la fin, en fait. Puis, étant dans la baraque, dans l'infirmerie, on n'a pas voulu ou pas cru bon le faire sortir avec les autres. On savait qu'il était condamné à mourir. Imaginez-vous dans une salle où il y a 15, 20, 30 personnes atteintes de dysenterie, de maladies, c'est ça, dont on ne guérit pas. Une dysenterie, diarrhée, ça devait être l'enfer. Alors c'est ça, il a été laissé là en pensant que la contagion allait de toute façon l'attraper et qu'il s'en sortirait évidemment pas, mais justement, bizarrement, le relâchement de l'autorité a fait que Primo a pu aller dans d'autres baraques, même s'il n'avait que la peau sur les... Ah non, il n'avait plus la peau que sur les os, il avait trouvé... En fait, c'est ça, Primo s'acharne à montrer que pour survivre dans un camp de concentration, il fallait être soit ingénieux, soit maltraiter son prochain, ou en tout cas, ou devenir voleur. Donc, c'est ça, on ne pouvait pas survivre. Et d'ailleurs, les rations de pain, en fait, la demi-ration de pain qu'on vous donnait, qui était l'équivalent d'un petit cube, je pense, de 10 grammes de pain...
C'est un livre qui nous révèle ce qu'est la nature humaine face à elle-même dans des conditions extrêmes.
Ouais, exact.
Quand tu es vraiment dans le plus bas du plus bas, qu'est-ce qui reste d'humanité chez...
En fait, c'est ça. L'humanité, elle est morte. C'est ça, en fait. C'est comment, en fait, tuer un homme. Si c'est un homme, c'est ça. Comment tuer un homme et puis, en fait, s'il y a un peu de chance ou si les circonstances de la vie... le favorise un peu comment redevenir un homme. Et c'est un livre, c'est ça, qui montre à quel point quand l'homme en est réduit à sa plus simple bestialité, à quel point la solidarité est inexistante. La solidarité meurt avec l'homme.
Avec
en fait,
la civilisation.
Avec la... Ouais. Civilisation? Ben. Oh, ouais, disons. Civilisation. Et c'est ça. Comment il faut même à coup de poing sur ton voisin pour lui voler son pain. C'est toi ou c'est l'autre. Et c'est, puis, ça. C'est ça.
Donc, ça a été écrit en 1947. C'est un des rares qui a écrit immédiatement après l'expérience. La plupart des témoins ont attendu un certain nombre d'années parce qu'ils étaient incapables d'exprimer immédiatement ce qu'ils avaient vécu. C'était trop gros. Mm-hmm. Mais lui a écrit immédiatement après. C'est aussi un intérêt de ce roman-là.
Donc, pas roman, pardon.
De ce témoignage, ouais, oui, témoignage. Tout à fait. C'est un homme, 1947, Primo Levi.
Oui. Peut-être que, juste pour vous donner une petite idée, je pourrais vous citer un petit extrait. Un petit extrait sur l'accumulation, en fait, des peines, ou non pas l'accumulation, mais le remplacement d'une peine par l'autre. Je vous lis juste un petit extrait de rien. « Car la nature humaine est ainsi faite que les peines et les souffrances éprouvées simultanément ne s'additionnent pas totalement dans notre sensibilité, mais se dissimulent les unes derrière les autres, par ordre de grandeur décroissante, selon les lois bien connues de la perspective. Mécanisme providentiel qui rend possible notre vie au camp. Voilà pourquoi on entend dire si souvent dans la vie courante que l'homme est perpétuellement insatisfait. En réalité, bien plus que l'incapacité de l'homme à atteindre à la sérénité absolue, cette opinion révèle combien nous connaissons mal la nature complexe de l'état de malheur et combien nous nous trompons en donnant à des causes multiples et hiérarchiquement subordonnées le nom unique de la cause principale. Jusqu'au moment où, celle-ci venant à disparaître, nous découvrons, avec une douloureuse surprise, que derrière elle, il y en a une autre, et même toute une série d'autres. Aussi, le froid, le seul ennemi, pensions-nous, cet hiver, n'a-t-il pas plutôt cessé que nous découvrons la faim? Et, retombant dans la même erreur, nous disons aujourd'hui, si seulement nous n'avions pas faim. Donc, c'est ça. Mais comment pourrions-nous imaginer ne pas avoir faim? Le lagueur est la faim. Ouais. Nous-mêmes, nous sommes la faim incarnée. Et donc, c'est ça. La faim qui enlevait d'ailleurs toute velléité de révolte à la plupart des détenus. Non, pas toutes. Qui enlevait, pas à la plupart, pardon, mais à tous les détenus. D'aucuns questionnent souvent pourquoi il n'y a pas eu de révolte, pourquoi ils ne se sont pas soulevés.
Mais ils n'avaient pas la force.
En fait, ils n'avaient ni la force, ni la possibilité même d'y réfléchir, parce que la faim, qu'on ne connaît pas, nous, ici, mais que le deux tiers monde connaît, la faim prend le dessus sur tout.
Oui.
En fait.
Oui, c'est un travail continuel de passer à travers ça, de juste penser à manger, comment faire pour manger, ou trouver de la nourriture. Ça préoccupe à temps plein.
Je suis désolé, c'est ça, je ne rends pas hommage à la hauteur de ce que mériterait Primo Levi, mais il faut absolument lire Si c'est un homme pour comprendre.
Et si ça se lit, c'est un petit bouquin, ça se lit quand même
se lit tout seul. Ouais, 180 pages, 200 pages max. Ouais. Et oui, on passe par différentes émotions. Et oui, un livre très, très important.
Et on arrive au dernier. Shlomo Venezia.
Shlomo Venezia, juif italien de Salonique. En fait, Venezia, c'est pas tant un livre qui est bien écrit, mais en fait, l'importance de ce bouquin-là, c'est que c'est un des seuls survivants des Sonderkommando. Les Sonderkommando sont les équipes, en fait ça s'appelle un commando spécial, sont les équipes qui étaient isolées de tout le reste du camp, qui avaient aucun ou presque aucun contact, dépendamment des cas, il fallait quand même aller chercher la soupe, mais qui avaient aucun contact avec tout le reste du camp. Les Allemands n'avaient absolument aucun intérêt à ce que ces gens-là d'abord s'échappent, parlent, etc. C'était les gens qui devaient faire rentrer les gens dans la douche, donc les faire se déshabiller, les gazer, bien que c'était pas eux qui les gazaient, mais un Allemand, et qui devait ensuite vider la salle de la douche, les cadavres empilés les uns sur les autres dans des positions, ma foi, pas très belles, parce qu'il fallait lutter pour trouver de l'air, et qui dit lutter dans une salle où l'espace est restreint, en fait tout le monde se pilait dessus, les gaz faisaient que le corps boursouflait, se dévidait au complet. Alors on imagine la souillure de ces corps-là. Et ensuite, c'est ça, on les sortait de la douche pour faire rentrer la prochaine batch de gens qui attendaient dehors au froid.
Ils devaient les incinérer aussi, ils devaient les amener au crématoire.
On les amenait au crématoire, les brûlait et ensuite répandait les cendres. Tout ce beau travail était accompli par les Sonderkommando, qui étaient, eux, des équipes, c'est ça, remplacées à tous les trois mois. On les tuait totalement. On faisait une rotation complète de l'équipe en les envoyant eux-mêmes, soit dans un autre camp pour être éliminés, soit qu'on les brûlait sur place et qu'on les assassinait au complet, parce que l'Allemand les Allemands en général ne voulaient pas que cette information-là soit connue, malgré qu'elle était connue.
Ça, et alors lui, sujet, il a fait ça combien de temps?
Combien de temps il a fait ça? Attendez, il a passé 3 semaines en décontamination ou en quarantaine, et après ça, il a fait ça. Et mémoire, en plus, je viens juste de le lire.
Il n'a pas dû faire ça très longtemps. Si
non, il a fait ça quand même un bon 3 mois. Puis, à la fin, en fait, c'est ça. Lui aussi est arrivé là sur le tard. Et avec l'avancée des Russes, ça a fait
en,
que...
En 44, en effet.
Oui, exactement. Ça a fait que... Ben, je vous raconterai pas comment il s'en est sorti, mais ça a fait que ça a été la débandade dans le camp. Et lui a réussi à survivre au prix d'une infamie, mais quand même... Il a réussi à s'en sortir. Et Shlomo, c'est ça. L'importance de son témoignage, c'est qu'on voit à quel point, même s'ils étaient mieux traités, mieux nourris, moins battus, qui n'avaient pas froid l'hiver, à quel point le travail horrible qu'on leur faisait faire à ces Sonderkommando ne valait pas de rester en vie. Et Shlomo disait lui-même, si on m'avait offert de retourner avec ma maigre ration, crever de faim, crever la dalle, en dehors, j'y retournerais. Mais évidemment, chose qui était rigoureusement impossible puisqu'il savait. C'est ça. Alors,
et son texte, c'est la description méthodique de ce véhicule-là, de ce,
ouais, exactement.
De ce travail-là spécifique des Sonderkommando.
On a quelques pages sur la Grèce, en fait, ces années en fait, sa déportation, tout ça, mais surtout le mensonge qui l'a conduit à être intégré au Sonderkommando, à la relève, en fait, quand on a eu besoin d'une autre équipe. Il faut dire aussi que les équipes ont cru vers la fin de la guerre, puisque il y avait un désir frénétique à la fin de la guerre d'éliminer le plus de juifs possible. Donc il y a eu des grandes équipes, des plus grandes équipes de Sonderkommando qu'il y en avait avant ça. Mm-hmm. Et ouais, non, ça. Fait qu'il raconte tout le récit méthodique et dégueulasse de ce travail que nul d'entre nous.
Très difficile de s'imaginer ce que ça pouvait être. Impossible.
Oui, très difficile. Puis je vous dirais même que le texte ne rend pas si bien l'émotion. Est-ce qu'on peut dire émotion? Parce que des gens qui font ça viennent qu'à plus avoir d'émotion. Venedia raconte quelque part qu'au début, pendant les 2 premières semaines, il était incapable de manger à cause du travail qu'il faisait, puis qu'à la fin, il pouvait, sinon lui, en tout cas, d'aucun de ses collègues, pouvait même s'asseoir sur des tas de personnes et manger là, avec plus aucun dégoût, avec seulement une intelligence de bête de somme. Un livre horrible, 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 et pourtant essentiel aussi. Écrit, c'est ça, des années plus tard.
Récemment, lui, oui.
En 2007.
2007,
c'est
la date que j'avais aussi.
Exact.
Ce qui est très, très récent.
Oui, en fait, c'est Madame Béatrice Pasquier. Une jeune fille qui a décidé de l'interviewer et à qui Shlomo a donné son consentement. C'est donc une entrevue entre Béatrice Pasquier et Shlomo Venedia. Pour lui aussi, le devoir de mémoire. En fait, d'aucun de ses frères à Venedia qui ont survécu, voyant que personne ne voulait croire ce qu'ils avaient vécu, ont décidé de se taire des années durant, 60 ans presque dans le cas... dans le cas de Venedia, c'est ça, 60 ans à se buter aux esprits fermés des gens, ou aux esprits incrédules, en fait, des gens qui ne voulaient pas croire à ça, et pourtant, qui sont vrais. On a des photos à l'appui, des photos qui ont été prises à la dérobée dans les camps, etc., les dessins de David Holler, donc, ouais, c'est ça, une source riche d'informations et d'une tristesse infinie.
Alors, ça fait le tour pour la revue des témoignages. Peut-être dire, avant de terminer, qu'il y a aussi des Allemands qui ont écrit, pas beaucoup, mais quelques-uns. Il y en a un, entre autres, qui était le commandant d'Auschwitz,
ouais.
Rudolf Hoss.
Hoss, en fait. Je ne suis pas un germanophone.
Ça s'écrit H-O-T-R-E-M-A-2-S. Oui,
exactement.
Rudolf Hoss, le commandant d'Auschwitz parle. Et donc,
je pense qu'on prononce Eus, mais en Eus. Tout cas. Oui, le commandant d'Auschwitz parle, qui est un témoignage sacrément intéressant, mais un peu problématique parce que écrit sûrement sous la contrainte, Rudolf Hoss étant un des Allemands capturés par les d'abord par les Polonais, pardon. D'abord par les Américains, transférés dans une prison polonaise qui a subi, ironiquement, le même sort. C'est ça, on parlait tantôt des Américains,
Américains,
qui avaient fait la même merde. Imaginez que vous trouviez, je ne sais pas moi, un violeur dans... Non, c'est un mauvais exemple. Toujours est-il que, c'est ça, par esprit de vengeance, par esprit de punition, disons que les Américains, les Polonais, les Russes, évidemment, ont fait subir aux Allemands, puis sans souvent de distinction entre le soldat allemand et le civil allemand.
Mais ça, il n'y a pas beaucoup de témoignages de ça, par contre.
Non, il n'y a en effet pas tant de témoignages, malgré qu'aujourd'hui, on doit en trouver davantage. Je pourrais pas vous en nommer comme ça, mais peut-être qu'on y reviendra éventuellement. Ouais, c'est sûr qu'il y a des témoignages là-dessus, mais toujours est-il que c'est ça. Le témoignage de Rudolf Hess, le commandant d'Auschwitz parle, est un truc intéressant, dans le sens de comment comprendre, en fait, le bourreau.
Oui, c'est ça.
Puis
c'est comprendre l'incompréhensible.
Comprendre l'incompréhensible, d'ailleurs, eux... témoigne assez mal. En fait, endormait sa conscience en allant flatter ses chevaux la nuit à l'écurie. Avait très peu de contact lui-même avec les prisonniers. Déléguait évidemment à des subordonnés le sale travail, mais quand même était au courant. Et on ne sait pas à quel point c'est ça. Le témoignage est véridique puisqu'il a été écrit sous la contrainte de la torture. Sous les coups, etc. Mais toujours est-il que ça reste un témoignage assez intéressant, en tout cas, pour faire la contrepartie de tous les témoignages, c'est ça, de prisonniers eux-mêmes. Donc, un livre intéressant, même si un peu étrange. C'est ça.
Oui, c'est nécessairement. Ouais, on dit qu'il était un nazi convaincu.
Il
fait preuve non seulement d'une totale obéissance aux ordres de Himmler concernant l'extermination, mais aussi d'initiative afin d'augmenter les capacités exterminatrices d'Auschwitz. C'était vraiment...
Non, mais évidemment.
Il était très convaincu.
Très convaincu. Puis, on commencera pas à parler d'être très convaincu ou pas. Évidemment, tout ça est contextuel. Et à une certaine époque, c'était... j'imagine relativement aisé d'être convaincu de tout ça, surtout quand on sait que c'est ça, l'Allemagne était ruinée, les gens crevaient littéralement de faim dans les rues, on annonce la venue d'un messie, Hitler, faire du zèle pour de l'avancement, eh ben même notre petite société connaissant, fait que c'était pas si différent à l'époque, évidemment.
C'est que la situation est extrême.
Ouais, la situation.
Les règles restent les mêmes, mais la situation est absolument poussée à son paroxysme.
Ouais, exactement.
Eh bien, merci beaucoup, David.
Ben,
je
plaisir.
Pense que ça fait le tour. On va faire une petite pause musicale avant la lecture du texte Inconnu à cette adresse que tu nous as lu avec Amélie.
Ouais.
Et on va écouter la pièce musicale Partisan Song ou Le Partisan de Leonard Cohen.
Oui, je tiens juste à dire, ça fait pas le tour, mais c'est un bon début. Merci, Catherine.
Merci, David.
Ouais, plaisir.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Thank you.
mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Alors voilà, c'est comme ça que se termine notre émission du mois de mars. La lecture de David et Amélie va être en ligne séparément de l'émission. Vous allez l'entendre tout de suite après mon intervention. Donc, je veux faire les remerciements. Donc, il y a David et Amélie qui vont faire la lecture de « Inconnu à cette adresse » de Chrisman Taylor. Je tiens à remercier tous mes collaborateurs, Gabriel, Mylène et David, qui ont fait un boulot formidable de recherche et de réflexion sur les textes qu'ils nous ont présentés. Je vous rappelle les événements du mois, donc le 9 mars à 19h30, le récital de Poésie Garage intitulé « La castration du pape » avec Coroner Paradis et Edmé Étienne, que je remercie en passant pour sa participation à l'émission. Le vendredi 30 mars, il va y avoir le spectacle-performance « L'exil » avec Wamed Ben Younes. Et jusqu'à la fin du mois d'avril, vous pouvez venir admirer les œuvres de Guylaine Proulx. Son exposition s'appelle « À la sortie du cadre ». Enfin, un gros merci à Anaël pour la mise en onde et à Big Nick, celui sans qui rien ne serait possible, car c'est lui qui nous accueille sur son site web Radio Fiat Lux. La semaine prochaine, l'émission sera diffusée le 2 avril et nous parlerons de philosophie. Merci et bonsoir.